Je vous salue les uns et les autres. Hier, je me suis occupé des ronces dans la propriété de mes parents qui sont maintenant auprès du Seigneur. Il y avait de belles fleurs, il y a de beaux arbres, et tout ça, ça pousse, mais il y a aussi des ronces. Et les ronces, vous savez, ça pousse, et si on ne s'en occupe pas, ça touche le sol et ça fait des nouvelles ronces, etc., et ça se multiplie. Donc, hier, je suis allé couper des ronces, en bas, en haut, pour que ça aille pas chez le voisin, ça allait en fait chez le voisin. Et puis, à un moment donné, je les ai mis les unes sur les autres, parce que ça griffe, n'est-ce pas? Je vous montre pas mes jambes. Et puis, ça laisse des traces. Et ces ronces, ben ma foi, si on les approche comme ça, on est tout plein de blessures. Mais j'ai mis des gros gants, j'ai mis deux pulls, j'ai mis un gros pantalon, je me suis couvert. C'est comme une cuirasse. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à l'un des éléments du combattant de la foi. Du combattant de la foi. C'est dire que la vie chrétienne n'est pas d'abord, dans la perspective du Nouveau Testament, qu'une partie de plaisir et une croisière, je ne sais pas où, aux Antilles ou là où c'est joli. Revêtez la cuirasse de la justice. La fois dernière, nous avons commencé avec un élément, c'était la ceinture de la vérité. Et maintenant, on continue notre panoplie d'éléments essentiellement défensifs avec une cuirasse. Vous avez été accueilli par quelqu'un avec une cuirasse en carton, d'accord? C'était sympa, hein? Ça vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce que c'est que ça? Revêtez la cuirasse de la justice. Pardon? Le but est formulé très clairement par l'apôtre Paul, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Aujourd'hui, il n'y a plus mauvais que nos jours que nous vivons pour nous. C'est pas vrai? On a bien nos petits bobos et nos petites embrouilles et puis nos petites difficultés, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce que d'autres vivent ailleurs sur la terre, c'est juste? Oui. Donc, il peut arriver qu'il arrive des jours mauvais. Et il dit de le faire pour pouvoir résister plus tard dans les jours mauvais. Autrement dit, sans entraînement, les jours mauvais, t'es fini. C'est pour ça qu'il te dit maintenant de revêtir un certain nombre de choses afin d'être équipé. Deuxième chose, ces gens-là pouvaient être traînés devant les tribunaux parce qu'on disait d'eux qu'ils mangeaient des bébés. En fait, ce n'était pas vrai. On pouvait dire d'eux des choses qui sont fausses. Ils sont traînés aux tribunaux. Ben, s'ils mangeaient des bébés, c'est sûr qu'ils seraient... Pardon, c'est horrible comme image, hein. Mais il pourrait être condamné parce que le tribunal est fait pour condamner les malfaiteurs. Mais s'ils ont une bonne conscience, pouvant s'expliquer qu'ils sont des papas et des mamans exemplaires dans la qualité de leur relation et de le traitement de leurs enfants, ils sont inattaquables afin de tenir debout. Autrement dit, le contraire de tenir debout, c'est être abattu. Au jour mauvais, tu peux être abattu au jour de l'épreuve si tu n'as pas cet élément, ces éléments, dont cet élément, de la cuirasse de la justice. Alors, il dit, dès à présent, prends la panoplie, et le mot panoplie est très proche du mot grec, prends la panoplie de Dieu, l'armure de Dieu. La panoplie de Dieu. Vous avez vu, c'est de Dieu, c'est pas la tienne. Et du coup, on se dit, mais d'où ça vient ce truc? Pourquoi la panoplie de Dieu? Et on va le découvrir petit à petit. Je vais essayer de vous montrer comment on peut, quand on a des choses un petit peu symboliques, trouver une certaine aisance à vérifier dans la Bible elle-même, et comment le faire dans la Bible elle-même, pour trouver le sens des choses. Pour le moment, on est dans une épître qui s'appelle l'Épître aux Éphésiens. Mais il se trouve que ce n'est pas l'Épître aux Éphésiens qui a commencé, c'est Ésaïe. Et ce prophète, un des grands prophètes de la Bible, il a parlé le premier comme un Dieu, comme un guerrier. Et quand il est dit « revêtez la panoplie de Dieu », c'est-à-dire « mets-toi dans les rangs de Dieu ». Prends les armures de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Je lis Ésaïe 55, versets 15 à 17, pour que vous voyez que les éléments du combat que l'on appelle spirituel viennent déjà préparés par l'Ancien Testament. Voilà le problème. En Israël, la vérité a disparu. Ça vous rappelle quelque chose, la ceinture de la vérité? La vérité a disparu dans le pays. Autrement dit, c'est pourri, hein, d'accord? La corruption. Quand la corruption touche un pays, la vérité a disparu. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Celui qui se détourne du mal se fait piller. C'est juste ça, ça va? Vous aimeriez vivre dans un pays comme ça? Non. Celui qui se détourne du mal se fait piller, mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Et le mot justice vient là, il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné, le Seigneur s'en est étonné. Alors, son propre bras lui est venu en aide. Et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Vous avez vu? C'est lui le premier qui le fait, et nous seulement les sous-fifres après. Il se revêt de la cuirasse, de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut en guise de tunique. Il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé d'une ardeur combative comme dans un manteau. Vous avez vu? Éphésiens, Paul, il n'a pas inventé son truc. Il connaît Ésaïe. Il sait que c'est d'abord la cuirasse de Dieu avant d'être celle que nous devrions revêtir. Une fois qu'on a vu ça, on découvre d'où viennent les thèmes. C'est la panoplie de Dieu. Ésaïe 55, 15, 17, c'est juste, ça colle dans les Bibles? Non, ça n'existe pas. Bon, ben écoutez, il faudra que je vous rectifie ça, ou alors c'est dans une autre version. C'est 59? Et c'est ce texte? Ah ben voilà, le combat du Seigneur Messie lui-même. Autant pour moi, Ésaïe 59. Alors, une cuirasse. Nous, on ne sait plus trop ce que c'est. Nous, on fait des cuirasses pour nos sites internet. Mais une cuirasse comme ça. Il y a même des rois, ils se sont cru malins, ils ont mis une cuirasse, mais le Seigneur, il a dit, pourri comme tu es, je vais te donner une situation. Et une flèche est rentrée au défaut de la cuirasse. Qui ça? Akab. À quoi sert une cuirasse? À protéger quoi? Je vous écoute. Le cœur. Quoi encore? Quoi en... Les poumons. Et quoi encore? Ça va jusqu'à la cuirasse. Les organes sensibles. Hein, oui. Des organes vitaux. Vous ne mettez pas la cuirasse seulement à la genouillère, hein? Un endroit où, quand c'est touché, tu ne tiens plus debout. Jusqu'à là, on a compris. À quoi sert une cuirasse? Pourtant, on voudrait pas être, on voudrait des gens libres, un peu souples, hein, non? Bon, heureusement que c'est articulé, les cuirasses. Contre quoi avons-nous à résister? Alors, quand on se pose la question, il faut toujours prendre le même livre, d'où est extrait l'expression. Parce que si vous allez fouiller à droite, à gauche, c'est peut-être intéressant, mais dans le même livre, il y a des choses intéressantes. D'abord, nous n'avons pas à lutter contre des gens, donc ce n'est pas des vraies cuirasses, c'est des cuirasses symboliques, d'accord? La cuirasse de la justice. N'allez pas croire que du coup, dimanche prochain, vous venez tous cuirasser avec... Hein, non? Pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Autrement dit, ici, le combat qu'il veut faire, ce n'est pas des combats entre nations avec des troupes de métier ou des armures. D'accord? Ce n'est pas les panzers cuirassés non plus. Hein, ce n'est pas les exocètes ou bien des choses comme ça. Des choses qui sont censées tuer. nous avons à lutter contre. Donc déjà, il faut savoir, ta vie chrétienne, si tu luttes contre rien, c'est que probablement tu ressembles exactement aux gens qui sont perdus. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de différence. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, nous dit Éphésiens 6, juste avant, mais contre des puissances, contre des autorités, contre des pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre des esprits du mal dans le monde céleste. Tout ça, ce n'est pas notre vocabulaire. Autrement dit, on peut juste retenir quelque chose que je peux vous proposer. Paul poursuit l'armure du chrétien après ce texte, mais il est important de voir que nous avons à lutter contre des mentalités méchantes. Mentalité méchante. Nous avons à lutter contre des conformismes dévastateurs et injustes. Vous vous souvenez, Israël du temps d'Ésaïe avait un beau culte, mais sa manière de vivre était pourrie comme celle des nations qui étaient autour. Du coup, Dieu a donné l'exil. Vous saisissez ? Le peuple de Dieu est menacé par exactement la même chose et c'est récurrent. Donc, ce qu'on peut retenir, il y a des mentalités qui essayent de me faire conforme à des démarches méchantes. Et cette mentalité, nous avons à lutter contre ces idéologies et ces mentalités et ces schémas tout faits. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es fou, mon vieux, fais comme tout le monde, tu vas voir, tu t'en sortiras. Vous saisissez les mentalités. Une fois qu'on a vu ça, nous avons compris qu'il s'agit là d'un symbole. Jésus ne ressemble pas à celui-là et le diable probablement pas à celui-là. Il est beaucoup plus fin, le diable, pour ressembler à ce genre-là, mais j'ai trouvé ça un bras de fer. Dans ma vie, il y a un bras de fer. Et si tu te dis, mais moi, je voudrais une vie relaxe, cool et paisible en tout temps, probablement, ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est cool et c'est relax de temps en temps. Enfin, mais en temps normal, il y a une résistance à trouver par rapport à des schémas de comportement qui ne sont pas typiques du Christ. Alors, en quoi consiste la lutte ? En une résistance. Vous avez vu que toutes ces armes sont des armes qui ne sont pas offensives. Et mais la seule arme offensive, ce n'est même pas vous qui la portez, c'est le Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit. Tout le reste, c'est de la résistance. C'est quand même étrange, hein ? On voudrait être un petit peu plus militant et plus conquérant. Mais non ? Il te dit, tu restes là où tu es comme un témoin, mais avec une différence qui fait que tu seras apte à résister quand il y aura des formes de conformisme. Méchant. Ouf, c'est les accouchements. Hein. Alors, nous avons à résister contre quoi ? Des schémas mentaux, des structures de pensée. On appelle ça des mentalités, des formatages qui mènent à l'injustice. Il y a même des choses qui sont légales, mais qui sont tout à fait pourries. Parce qu'il y a des gens qui, au bout de ligne, trinquent et qui sont maltraités. Mais c'est légal. Eh bien, Dieu dit, il y a des formes d'injustice dans lesquelles tu n'as pas à tremper et surtout pas à cautionner. Et tu résistes parce que tu ne le veux pas. Voici ce que on peut imaginer sous revêter la cuirasse de la justice. Maintenant, il y a un petit problème. Tous les gens un peu introspectifs et légalistes parmi nous, ils se mettent à trembler parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas parfaits. C'est quoi la justice ? C'est quoi la cuirasse de la justice qui fait que les flèches ne m'atteignent pas ? C'est ça ? Bonne question. Et pour essayer de voir quel est le sens que, dans la lettre aux Éphésiens, Paul avait en tête, il faut lire le reste de la lettre. En général, lisez des lettres entières du Nouveau Testament quand vous voulez l'interpréter. Ne plongez pas juste quelque part en disant ce que vous vient à l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? Revêtir. Deuxièmement, la cuirasse. Troisièmement, la justice. Qu'est-ce que c'est ? Que revêtir la cuirasse de la justice. Il se trouve que dans la même lettre, nous avons ces mots ailleurs. Du coup, on va lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24, je vous le lis, pour que vous voyez quelle est la légitimation de ce qu'on va tirer comme conséquence. D'accord ? Il faut légitimer. Sinon, c'est juste nous qui disons ce que le texte doit dire. Or, ce n'est pas nous qui devons dire ce que le texte doit dire, c'est le texte qui nous rejoint dans notre vie. Voici ce qu'on trouve. ne vivez plus comme vivent les païens. Tiens, il écrit à des chrétiens d'Éphèse. Ne vivez plus, ça veut dire différence chrétienne. Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté sans frein. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Ça, c'est la catéchèse. Qui c'est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son exemple de vie? Comment l'as-tu reçu? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Quelle belle expression, frères et sœurs. Apprendre le Christ. Ça ne me tombe pas juste dessus. J'apprends ce Christ. Sinon, je l'invente et ça, je ne dois pas le faire. Mais ainsi que vous avez appris le Christ, mais revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle. Vous avez vu le mot revêtir? Il faut que vous sachiez une chose. Dans l'Église primitive, quand on baptisait, on revêtait le baptisé, le néophyte, d'un manteau blanc. Et après, il pouvait communier à la table du Seigneur. D'accord? Revêtir, c'est le symbole du baptême. Nous, on ne s'imagine pas bien, parce qu'on ne sait plus bien. Mais on est, en fait, une nouvelle créature. Revêtir l'homme nouveau. En fait, l'image est la suivante. Tu avais une ancienne identité quand tu vivais comme les païens. Que les païens soient mondains, c'est évident, non? Mais que les chrétiens soient mondains, c'est pas juste, d'accord? Alors, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice. Et vous avez là, revêtir et justice. Qu'est-ce que c'est que cette cuirasse de la justice, sinon la nouvelle création que j'ai quand je suis en communion vivante avec Jésus? C'est ça, la nouvelle justice. C'est la nouvelle communion que j'ai dans la communion avec Jésus, que je reçois. Je dois la revêtir. C'est le symbole de mon baptême. Qu'est-ce qui s'est passé à mon baptême? Mon identité est changée. J'étais un enfant turbulent, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez le deviner. Et j'étais un petit peu voyou aussi, un peu sur les bords. Je pouvais courir vite, donc je pouvais taper et courir, vous comprenez? Mais j'étais aussi un enfant très, très introspectif. Je savais très bien que ma conscience n'était pas nette, que je pouvais faire des coups tordus. J'avais besoin d'une nouvelle identité. Et quand l'Évangile est venu dans ma vie, les choses anciennes ont commencé à être passées et j'ai trouvé une nouvelle identité. J'ai trouvé le pardon de mes péchés. J'ai trouvé quelqu'un qui me dit « Tu es aimé. Tu es aimé. J'ai un sens pour ta vie. » Avec les dons qui sont les tiennes et les tares qui sont les tiennes, tu rentres dans un nouveau projet. Un projet d'amour et de paix et de réconciliation, et ça m'a pris. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, qui viennent de la vérité. On retrouve même le mot vérité. La communion avec Jésus, très importante. Maintenant, quand vous dites, je suis, nous avons vu ça, nous avons vu ça, il y a quand même une différence qualitative. Il y a une différence chrétienne. Quelqu'un qui est baptisé en Jésus, il y a des domaines qui vont changer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que c'est juste religieux, un petit truc en plus, le fait d'être baptisé? Non, c'est une réorientation de la vie. Essayons de regarder quels sont les domaines touchés dans, concret, dans Éphésiens 5. Quand il est question de justice, c'est aussi une question d'attitude différente, la différence chrétienne. Par exemple, il est question d'amour, de bonté, de soumission mutuelle, de considération mutuelle. Du fait de tenir compte de l'autre, pas seulement du patron et du riche, mais aussi du petit, du faible, du soumis dans l'échelle des valeurs de l'époque. Il y avait aussi le fait de dire la vérité, ça on a vu la dernière fois avec le fait de la ceinture de la vérité. Pas de propos grossiers. Ben oui, il y a des mauvaises habitudes qui sont prises quand on faisait des propos grossiers, quand on est dans le Seigneur Jésus, ben ça change. Vous prenez Éphésiens 5, vous le lisez, j'ai juste fait le catalogue des choses. Voilà ce qu'on attend d'un chrétien qui ne laisse pas court au ressentiment, mais qu'il traite la chose pour ne pas donner prise au diable. Le ressentiment, c'est quelque chose. Vous savez, quand on ne règle pas les questions pour s'expliquer en disant « ça, je trouve que ce n'est pas juste ce que tu as fait. » Ah oui, ben, on va en parler pour trouver une base saine. Par exemple, il dit aussi dans Éphésiens 5 de trouver de l'unité, de relativiser les murs humains qui séparent hommes et femmes, tel et tel pour tel et tel autre, race, etc. Il est question de ne pas voler. Et vous, les chrétiens, si vous avez pris l'habitude de voler dans le passé, maintenant prenez l'habitude de travailler pour que vous en ayez même plus que pour vous, pour donner à celui qui est dans le besoin. Vous avez tout ça dans Éphésiens 5, et quand il est question de la cuirasse de la justice, c'est aussi avec un profil de manière de vivre qui est différent. La colère et les injures qui doivent disparaître, c'est question dans Éphésiens 5, comme toute espèce de méchanceté. On pourrait continuer à pardonner à autrui comme Dieu nous a pardonné, et lui nous a pardonné avant même qu'on lui demande pardon. Pas question de cupidité, la question de l'argent est aussi touchée par l'identité en Jésus. Moi, eh bien, quand quelqu'un est dans le besoin, ça me touche. Après, il y a des manières bonnes et mauvaises de donner, mais l'argent, la cupidité, c'est aussi grave que le blasphème. On le met des fois pas au même endroit. Hein. Ici, c'est évident, l'impureté qu'elle soit, pour ne pas être complice avec ces schémas qui conduisent une société. Bon, ça, on voit, c'est juste un petit catalogue. Pour la petite histoire, la justice, on en a parlé en politique, hein, vous avez même, j'espère, les uns et les autres élu telle et telle personne. Et puis j'ai trouvé Coluche, c'est pas dans l'évangile. Hein. Coluche qui a dit, c'est pas compliqué en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Ah ben, avec l'évangile, ça ne tient pas. Je sais d'où je viens, je sais que j'ai cette tendance, mais j'ai besoin d'une identité nouvelle dans la communion avec Jésus. Ça change tout. Mes péchés sont pardonnés parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et ça ne veut pas dire qu'il ne me change pas la vie, ça veut juste dire qu'il m'accueille. Alors, de quelle justice est-il question dans la lettre de Paul aux Éphésiens? Parce qu'il faut bien, à un moment donné, trouver une réponse. Il s'agit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ça la réponse que l'on trouve dans l'épître aux Éphésiens. J'ai aussi mis 2 Corinthiens 5, 21. Je le dis parce que ça me paraît très, très important. J'aimerais vous le lire. Et spécialement ceux qui parmi vous sont conscients qu'ils ne sont pas parfaits. À ceux-là qui savent très bien qu'ils ont un regard introspectif et ils savent regarder la vérité en eux, tous n'ont pas cette tendance. À ceux-là, j'aimerais dire, celui qui n'avait pas connu le péché, Jésus. Il, le Père, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. J'aimerais vous dire ça. Apprenez à vous regarder avec la nouvelle identité que le Christ vous donne. Et ça change la vie. Et ça change la vie. Je suis justifié parce que c'est un cadeau de Dieu. J'arrête de me regarder comme une sorte de comptable sur ce que je suis quand je suis très bien conscient que tout en moi n'est pas glorieux. Mais j'apprends à me regarder avec le visage et le regard de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. Je suis un enfant aimé par le Seigneur. Et à partir de là, Dieu libère des potentialités. Et puis, je peux résister aux flèches. Les flèches, la cuirasse est là pour que les flèches ne m'atteignent pas dans mes organes fonctionnels vitaux. Et hein, la foi en Jésus mène à une vie transformée. Réorienter, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas la question pour le Seigneur. La question, c'est avec qui je suis en communion active. Qui est mon identité nouvelle? Ça, c'est la question. Elle doit être entière et cela fait une différence qu'on appelle la justice. La justice, c'est pas l'impeccabilité. La cuirasse de la justice, c'est pas que je suis impeccable, donc je suis intouchable. C'est surtout pas ça. C'est la justice que je reçois dans la communion avec Jésus. Vous voyez la différence? Frères et sœurs, nous avons besoin de la défense de la cuirasse de la justice. Mais celle-là nous est donnée dans la communion avec Jésus. Et je crois que c'est important. Qui cherche à accuser? D'où viennent les flèches? Et je vous donne un exemple. C'est tiré dans l'épître de Pierre. C'est là que ça va mal. L'épître de Pierre, c'est quand ça va très mal, d'accord? C'est comme l'Apocalypse. Ouais. Et dans l'épître de Pierre, vous avez cette narration, ces descriptifs. Et essayez d'imaginer la cuirasse qu'ils ont quand ça va mal, afin de tenir debout dans les jours mauvais, nous dit Éphésiens, d'accord? Regardez. D'ailleurs, dit Pierre, qui vous fera du mal si vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous vous souvenez, dans le livre d'Ésaïe, il y a des gens qui étaient justes et qui étaient traîné en justice, vous vous souvenez, Ésaïe? Eh bien, même s'il arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Bon, ça, on n'a pas trop d'entraînement. Hein. En attendant, on a plutôt l'habitude de dire, souffrir, c'est pas quelque chose... Mais si c'est en faisant ce qui est juste, il dit, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Autrement dit, c'est devant Dieu qu'on est. Et avant d'être devant les hommes, ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint. C'est ce que j'essaie de vous dire. La justice qui vous est donnée comme cuirasse est avant tout la justice de Jésus. Et si l'on demande de justifier, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. Si on vous demande, on vous demande des fois pas, mais si on vous demande, dans un tribunal, on peut vous demander de justifier votre attitude, ou ailleurs, des fois, les collègues de travail, à un moment donné, ils s'en fichent. Et en groupe, ils peuvent même se moquer de vous, mais tout seul. Dans des endroits, tout seul, tout d'un coup, on a des consciences qui sont troublées. Ils disent, c'est quoi finalement ce qui te fait espérer? Votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Là, il y a le mot conscience. Conscience pure dans la relation avec Jésus. Frères et sœurs, je te demande juste de considérer le don de Dieu, l'alliance nouvelle. Ce sera la cuirasse quand tu es toi-même attaqué, soit par ta conscience, parce qu'elle est redoutable, notre conscience. Elle nous dit, Claude, tu te souviens la crasse que tu as fait? Tu te souviens, tu l'as triché là hein? Et toi, tu veux témoigner? Du coup, on se la met en sourdine, on devient chrétien deuxième classe. Et du coup, on n'est plus disponible au Seigneur. Pourquoi? À cause de la conscience. Vous saisissez? La conscience peut décocher ses flèches. C'est pour ça qu'il est important que nous revêtions la cuirasse de la justice, revêtir la cuirasse de la justice qui est en Jésus. Soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, donc ceux qui vous décochent des flèches, c'est pas que le diable et pas que la conscience, c'est aussi des humains parfois, qui découlent de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. C'est-à-dire, ils vont dire, je sais que ce gars, il est droit, et qu'il est généreux, et qu'il est aimant, et moi, je suis en train de lui faire une crasse. Et ça me ronge à l'intérieur, ça prépare le cœur à des conversions. Voici la conclusion. Revêtons la cuirasse de la justice. Là où Christ est le chef, les puissances d'asservissement et de méchanceté sont soumises et vaincues. Christ est ta protection par excellence. Cultivons cette communion avec lui.